VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h temps universel, dans 10 minutes Sahel Plus avec Claire Morin-Gibourg, mais tout d'abord le journal. Au Sénégal, le président Macky Sall a évoqué devant d'influents chefs religieux musulmans une possible libération prochaine de Karim Wade, ancien ministre et fils de son prédécesseur au pouvoir, en détention depuis plus de 3 ans et condamné en mars 2015 à 6 ans de détention et plus de 210 millions d'euros d'amende pour enrichissement illicite. C'est ce qu'annoncent aujourd'hui plusieurs médias sénégalais. Le journal privé Le Quotidien titre même à la une ce mercredi « Karim Wade va passer la corrida » chez lui. Une référence à l'appellation au Sénégal de la fête de la fin du Ramadan, période traditionnelle de mesure de clémence dans les pays musulmans, attendue cette année vers le 6 juillet. En Guinée-Bissau, bref, des crispations de la situation politique. Les députés bissau-guinéens se sont réunis hier après quasiment 2 mois d'interruption en raison d'une crise entre le président José Mario Vaz et le chef de son propre parti, Domingo Simoes Pereira. Les détails avec Idriss Fall.
C'était la première séance de l'Assemblée depuis le 19 avril, mais aussi la dernière session parlementaire. Elle n'a duré que 10 minutes et il n'y a pas eu de débat. Le vice-président de l'Assemblée, Ignacio Correira, du PAIGC, le premier parti politique, a déclaré que le Parlement est en train de se transformer en un instrument manipulé par une force obscure. Les députés du PRS, parti d'opposition, et les 15 dissidents du PAIGC ont rétorqué. C'est de la dictature. Le président José Mario Vaz compte sur l'opposition et les dissidents pour avoir une majorité alternative soutenant le gouvernement du tout nouveau Premier ministre Bassirou Dia. Depuis la destitution par le président Vaz en août 2015 de son Premier ministre Domingo Simoes Pereira, chef du PAIGC, dont ils sont tous les deux membres, la Guinée-Bissau traverse des turbulences politiques qui ont conduit à une paralysie totale de l'Assemblée nationale. Et aucune date n'est annoncée pour la prochaine session parlementaire.
Au Congo-Brazzaville, le général Jean-Marie Michel Mokoko est en garde à vue depuis ce mardi. Il est retenu par la Direction générale de surveillance du territoire, la DGST. Le point avec Eric Manirakiza.
Aucune infraction ne lui a été notifiée selon la défense du général Jean-Michel Mokoko. Le seul motif qui le retient, raison d'enquête, précise la même source. Depuis ce mardi à 11h heure locale, il est interrogé à la Direction générale de surveillance du territoire sur ses liens avec certains individus dont on ne connaît pas encore l'identité. Selon la procédure, la garde à vue dure 72 heures mais peut être prolongée de 48 heures. Après ces délais, le général Mokoko devrait retrouver sa liberté ou déférer devant un magistrat. Un de ses assistants qu'il a vu ce matin affirmait que M. Mokoko se portait bien. Candidat malheureux de la présidentielle du 20 mars dernier, le général Mokoko a été assigné à résidence depuis début avril. Il conteste la réélection du président Denis Sassou Nguesso. La veille de sa comparution, le général Mokoko a dit à VOA Afrique qu'il ne peut pas reconnaître les résultats d'une élection biaisée, précisant également que son traitement était devenu inacceptable.
Au Tchad, 2 des fils de dignitaires du régime au pouvoir impliqués dans le viol collectif d'une jeune lycéenne en février dernier se sont évadés de la maison d'arrêt de N'Djamena. Cette affaire de viol continue de défrayer la chronique dans le pays. Plus de détails avec notre correspondant à N'Djamena, André Kodmajinga.
Les autorités judiciaires ont qualifié en son temps l'acte posé par ces présumés de criminels et donc il faut nécessairement une instruction préparatoire. C'est ainsi qu'après le premier interrogatoire au fond à la prison de Korotoro, le juge en charge du dossier a exigé qu'il soit transféré à N'Djamena pour la suite de l'enquête. Après une tentative de confrontation avec la victime, le juge d'instruction a organisé une confrontation avec les accusés eux-mêmes. Confrontation à l'issue de laquelle il a retenu un non-lieu contre 2 d'entre eux et a renvoyé les 6 autres à la chambre d'accusation. Le dossier suit son cours et c'est le jeudi prochain que le procès doit se tenir devant la chambre d'accusation. C'est pendant ce temps que les présumés Tidjane Abdoulaye Miss et Agar Mohamed Brahim se sont évadés de la maison d'arrêt de N'Djamena. Le secrétaire général de la Convention tchadienne pour la défense des droits humains, Mohamed Ribedou, parle d'une complicité entre les agents de sécurité et les parents de ces évadés. Car, selon lui, ces détenus sont sortis par la porte sous prétexte qu'ils ont reçu de la visite des parents pour prendre la poudre d'escampette. Première conséquence, les autorités judiciaires ont mis aux arrêts le chef de sécurité de la maison d'arrêt, Adoum Nokou, et son adjoint Mahamat Gouni, ainsi que les deux agents de sécurité qui étaient en faction ce jour. Le régisseur de la maison d'arrêt, lui, est relevé de ses fonctions. Les quatre qui restent en détention sont privés de la visite des parents. André Kodumadjingar Ndiamena pour VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Burundi, 700 élèves doivent payer pour remplacer des manuels scolaires dont les photos du président Pierre Nkurunziza ont été abîmées. Sinon, ils ne passeront pas les examens de fin d'année. Maëlys Segal.
Dans la commune de Taungwa, au nord de la capitale Bujumbura, ces élèves de 14 à 17 ans sont accusés de gribouillis sur une photo de Pierre Nkurunziza dans des manuels scolaires. Léopold Niungeko, le directeur de l'enseignement de l'école fondamentale Kamara, a décidé lundi que chacun allait payer 700 francs burundais pour remplacer ces manuels abîmés. Selon Léopold Niungeko, ces élèves ont commis une faute très lourde et ceux qui n'ont pas encore payé ne passeront pas les examens de fin d'année qui ont déjà commencé. Certains parents d'élèves assurent que les autorités leur ont imposé de payer. Une dizaine d'écoles sont concernées dans le pays. Des centaines d'élèves ont déjà été provisoirement renvoyés et d'autres ont été réintégrés. Quatre élèves de la province de Kankuzo, dans l'est du pays, ont été interpellés mardi et mercredi. 11 autres ont été inculpés d'outrage au chef de l'État et écroués le 3 juin à Murambia, dans le centre du Burundi.
En Ouganda, le procès pour trahison de l'opposant Kizza Besigye devra se tenir dans un tribunal et non dans une prison. Ainsi en a décidé aujourd'hui la justice ougandaise. Monsieur Besigye est apparu devant le tribunal avant de retourner à la prison de Luzira. Et puis au Kenya, 8 parlementaires ont été placés en détention préventive par un tribunal de Nairobi. Ils auraient proféré des discours de haine qui risquent d'attiser les tensions ethniques à un an des élections générales. Corne de l'Afrique maintenant, les États-Unis expriment de sérieuses inquiétudes concernant la situation entre l'Éthiopie et son voisin l'Érythrée qui se sont livrés à de violents combats à leurs frontières communes le week-end dernier. Nous appelons les deux parties à la retenue et à amorcer un dialogue politique, a déclaré John Kirby, le porte-parole de la diplomatie américaine dans un communiqué hier. On reste toujours aux États-Unis. Le tueur qui a commis un massacre au nom du groupe État islamique dans un bar gay d'Orlando en Floride, où il semblait avoir ses habitudes, était un jeune homme en colère, dérangé et instable qui s'est radicalisé, a déclaré hier soir le président Barack Obama. Le point avec Nathalie Barge.
Lors d'une allocution, le président américain a dressé le portrait d'Omar Mateen, qui a attaqué dimanche une boîte de nuit à Orlando, faisant 49 morts et 53 blessés. Parmi les 22 blessés toujours à l'hôpital, 6 sont dans un état critique. Barack Obama s'en est aussi pris au candidat républicain Donald Trump pour sa rhétorique sur les musulmans. Monsieur Obama ira demain jeudi à Orlando pour rendre hommage aux victimes et apporter son soutien à la communauté homosexuelle. Omar Mateen avait déjà été placé sous surveillance par le FBI, mais n'avait rien révélé de suspect. Son épouse Nour Mateen est interrogée par la police fédérale et coopère avec les autorités. Certains médias évoquent l'homosexualité cachée du tueur, affirmant qu'il fréquentait le Pulse et utilisait des applications pour des rencontres gays. Ce carnage vient relancer le débat sur les armes à feu aux États-Unis. Une pétition contre la vente de fusils d'assaut semi-automatiques à des civils a recueilli plus de 400 000 signatures.
Et pour terminer, la lutte contre le groupe État islamique en Libye, les forces pro-gouvernementales libyennes ont annoncé aujourd'hui avoir repoussé une nouvelle contre-offensive du groupe État islamique dans son fief à Sirte, où les djihadistes sont quasiment encerclés. L'État islamique a tenté sans succès d'éliminer des positions contrôlées par les milices du gouvernement d'Union nationale libyenne dans le secteur ouest de la ville, qui est situé à 450 km à l'est de Tripoli et dont une grande partie a déjà été reconquise depuis le 9 juin. Rappelons que le groupe État islamique s'est installé en Libye après la chute du dictateur Muammar Kadhafi. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Restez à l'écoute. Vous pouvez nous suivre sur notre site voafrique.com et également nous joindre sur notre page Facebook. Merci de votre attention. Bonne soirée.
Soyez au au cœur de l'info sur VOA Afrique.